Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage, on oublie les histoires de virus, on se libère, juste pour le plaisir de rêver, deux destinations en France et au bout du monde. C'est parti.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, à partir de 17h, nous irons dans ce pays immense qui, à lui seul, est une promesse de musique, d'aventure dans les forêts profondes, de plages à l'infini, de villes coloniales magnifiques chargées d'histoire, mais surtout de rencontres, car s'il y a bien un pays où les échanges, la discute, aller vers l'autre, quoi, est extrêmement facile, c'est le Brésil. Et voilà. Je vous l'ai dit, c'est facile, on y est. Et en première heure, tout de suite, une super région imposante par son relief et ses paysages exceptionnels. C'est une des plus belles régions de France. Il y a par exemple le cirque de Gavarnie, qui est surnommé par Victor Hugo le Colosseum de la nature. Et puis connu également pour Lourdes, bien sûr, la deuxième ville de pèlerinage au monde, après Rome. Et cette belle région, ce sont les Hautes-Pyrénées. C'est Florent Dasque, l'un des chanteurs du groupe Boulevard Désert, qui est né et qui a grandi à Tarbes, qui sera d'ailleurs notre guide cet après-midi. Et pour voyager, vous les avez déjà entendus danser, rire au son du Brésil. Tous mes amis voyageurs, Nathalie Ella, l'auteur, grande voyageuse, bonjour.
Bonjour à tous.
Emmanuelle Jarry, gourmande, la plus gourmande de France. C'est vrai, c'est votre titre.
Ah, oui, ça me va bien.
Ça vous va bien. Ouais. Elle nous parlera de tout ce qui est bon là-bas et ailleurs. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
De retour.
Jean-Bernard, les Hautes-Pyrénées, alors c'est un département ?
Le 65.
Mais c'est aussi une région très forte, très, très marquée.
Alors, c'est un département qui se trouve pris en sandwich, si je puis dire, entre les Pyrénées-Atlantiques d'un côté et l'Ariège et la Haute-Garonne de l'autre. Voilà. Ouais. Et c'est frontalier avec l'Espagne, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Une grande caractéristique quand même au niveau des montagnes, c'est qu'il y a 35 pics à plus de 3000 mètres. Ça vous donne déjà une idée. Je pense qu'on va beaucoup marcher dans ce département.
Ouais, beaucoup marcher, beaucoup grimper. C'est une terre qui a beaucoup, beaucoup de caractère.
Beaucoup de caractère et une ville emblématique, bien sûr, Tarbes, Lourdes et aussi Lannemezan. Voilà.
Très bien. Merci Jean-Bernard. Nathalie Ellal, vous avez réussi à dégoter quelques célébrités dans votre bottin mondain.
Ah oui, qui ont aussi beaucoup de caractère. Hein. Je commencerai par Yvette Horner.
Ah oui, ah, j'adore. Ah oui, oui. C'est la France, hein.
Ça fait danser aussi, hein.
Elle est de là-bas.
Oui, alors elle est née à Tarbes le 22 septembre 1922. Une carrière longue de 70 ans. Plus de 2000 concerts, 150 disques vendus à 30 millions d'exemplaires et surtout une popularité immense qu'elle a établie en accompagnant la caravane du Tour de France à 11 reprises. Évidemment, on se souvient de son look extravagant. Elle a été relookée par Jean-Paul Gaultier. Sa chevelure flamboyante. Merci Yvette de nous avoir fait danser et rêver. Et puis dans un autre registre, nous avons également le grand écrivain Théophile Gaultier, né à Tarbes. Mmh. En 1811, on lui doit le roman de la momie, Mademoiselle de Maupin, le capitaine Fracasse. Un tout autre registre encore, décidément, on va vraiment de Caribe en Silla, si j'ose dire. On passe avec le maréchal Foch, Ferdinand de son petit nom, qui est né à Tarbes en 1851. C'est une figure illustre de la Première Guerre mondiale, absolument indissociable de la victoire des armées alliées. Ouais. Également Jacques Chancel.
Ah oui, très juste.
Qui a animé pendant 17 ans le Grand Échiquier. C'est vraiment l'homme de radio et de télé par excellence. Il est né à Esac-Ost.
C'était un fan du Tour de France, lui.
Absolument,
aussi.
Absolument, un fan du Tour de France. Et puis Philippe d'Ouste-Blazy, qui est né à Lourdes, médecin, homme politique au CV impressionnant, plusieurs fois ministre, député et maire de Lourdes, puis de Toulouse. On peut dire que c'est un vrai miraculé de la politique dans son genre. Et puis bien sûr, Bernadette Soubirous, témoin de nombreuses apparitions de la Vierge au 19e siècle à Lourdes. Eh vous en reparlerez tout à l'heure.
Bah, évidemment.
Abondamment, en bonne pénitente que je suis.
C'est très bien. Emmanuelle Jarry, oui. Donc vous êtes la plus gourmande et vous êtes la journaliste spécialisée dans le voyage et la gastronomie de l'émission. Vous avez créé le programme C'est meilleur quand c'est bon sur Internet. Alors, je sais pas, moi on me dirait Hautes-Pyrénées et gastronomie, il y a rien qui vient tout seul,
ah oui,
spontanément.
Là comme ça, non. Il y a beaucoup de beaux produits.
Oui, ah non, c'est pas ça que je pense. Non, c'est pas ça. C'est
le
ah oui, les haricots Tarbais évidemment, mais surtout des beaux produits rares qui sont faits par des hommes super engagés et des femmes aussi, comme le porc noir de Bigorre ou le mouton de Barège-Gavernier. Ça, c'est vraiment la France que j'aime parce que c'est des gens qui défendent des produits. Coûte que coûte.
Très bien. On en parle tout à l'heure. Après le flash de 17h, je vous emmènerai au Brésil, au pays de la samba et de la bossa nova. Mais donc, dans un instant, nous serons dans les Hautes-Pyrénées avec Florent Dasque, un des chanteurs du groupe Boulevard Désert. Je vous l'ai dit, il est né, il a grandi à Tarbes. C'est un amoureux fou de sa région. Les Hautes-Pyrénées à l'honneur dans un instant.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les après-midi sur Europe 1, 2 heures de voyage, juste pour le plaisir de s'évader. Après 17h, nous irons au pays du métissage et des rythmes envoûtants. Nous irons sur les plages mythiques de Copacabana, d'Ipanema, je pourrais vous en citer beaucoup comme ça. Nous irons au cœur de l'Amazonie. Je vous emmènerai d'ailleurs faire un tour sur les buffles d'Amazonie. Ils sont peu connus, mais très impressionnants, vous verrez. Donc, grand départ tout à l'heure à 17h pour le Brésil. Mais là, tout de suite, nous sommes toujours dans les Hautes-Pyrénées, qui sont connus, vous le savez, pour leurs eaux thermales. On les a pas rappelés tout à l'heure, mais c'est très important de leur réputation grâce à Victor Hugo, par exemple, ou Georges Sand, qui ont répandu en France la connaissance de leurs bienfaits. Et cet après-midi, notre guide est un homme qui n'a jamais oublié ses racines tarbaises. Vous allez voir que son lien avec Tarbes est très très fort. Nous sommes en ligne avec le chanteur Florent Dasque du groupe Boulevard Désert. Et Tarbes est vraiment la ville où tout a commencé pour eux.
Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Bonjour Florent Dasque.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors là, on vient d'entendre le titre extrait de votre troisième album, Bruxelles. C'est l'album de votre consécration. Hein. Alors, vous êtes né à Tarbes et presque tous les membres du groupe Boulevard Désert aussi. Vous y vivez toujours et Boulevard Désert a même été créé à Tarbes. C'est vraiment dingue. C'est quoi toute cette histoire ? C'est une histoire de copains ?
Exactement. C'est vrai qu'on est plusieurs membres dans ce groupe. On est 7 ouais. exactement. Et effectivement, on est né à Tarbes ou à Bagnères de Bigorre, un village à côté de Tarbes. Et dans la cour de récréation du collège-lycée Marie Curie en 2004, eh bien, à l'âge de 14-15 ans, on a créé ce groupe-là, Boulevard Désert. Qui 15 ans après ne s'est toujours pas séparé et a franchi les frontières, toutes sortes de frontières d'ailleurs. Mais effectivement, il s'est créé ici à Tarbes, nous avons grandi et c'est ici qu'on garde un port d'attache très très fort puisqu'on enregistre l'intégralité de nos albums ici, même quand le groupe est devenu professionnel. Et c'est assez drôle d'ailleurs d'imaginer des chansons qui sont créées ici avec un panorama sublime derrière une baie vitrée où on peut admirer les montagnes et puis se retrouver après, je sais pas, en concert dans les Zéniths en France ou aller chercher une victoire de la musique quelques temps après. C'est vrai que le chemin est incroyable entre ces deux images.
Mais oui, et donc quand vous aviez 13-14 ans, vous aviez déjà créé le groupe, il s'appelait déjà Boulevard Désert ?
Alors il s'appelait déjà Boulevard Désert, effectivement, c'était une envie commune de... Alors pourquoi Boulevard Désert ? Parce que on était très amoureux d'un DVD de Vincent Delerme qui s'appelait Un soir Boulevard Voltaire, qui est l'adresse du Bataclan. Et on s'était dit, bon, Un soir Boulevard Voltaire, je pense que Vincent va nous taper sur les doigts si on utilise ce nom entièrement. Et donc on l'avait transformé en Boulevard Désert. On aimait bien cette idée de boulevard, de grandeur, de métissage, d'éclectisme et puis désert de musique. Donc ça s'appelait déjà Boulevard Désert quand on avait 13-14 ans. Et ça s'appelle toujours Boulevard Désert maintenant qu'on a bientôt 30 ans.
Ah, c'est dingue. Et alors, pourquoi est-ce que vous revenez toujours à Tarbes ? Qu'est-ce qui vous ramène toujours là-bas ?
Bon, un grand nombre de raisons. Effectivement, vous en avez parlé en première partie de l'émission. Il y a tout ce qui a trait à l'environnement dans lequel on grandit ici. Mmh. Et puis effectivement, aujourd'hui, étant donné qu'on a une vie très rythmée, on va dire, on prend d'autant plus de plaisir à revenir ici, où il y a une forme de sérénité, de bienveillance qui se dégage des gens d'ici. Et puis voilà, on a grandi ici, on a tous les souvenirs d'enfance, de doux souvenirs d'ailleurs d'enfance. Et on prend énormément de plaisir à revenir ici, à retrouver un petit peu de calme. C'est ce qui nous donne la force d'ailleurs de repartir plus fort, j'ai l'impression, dans le reste de la France ou du monde.
Quels souvenirs d'enfants, par exemple, sont très doux à votre cœur ?
J'imagine que c'est propre à chacun, et puis j'imagine que dans chaque région, les personnes peuvent en citer, mais c'est vrai que moi, par plaisir, j'aime bien me promener sur les petites routes du village dans lequel j'ai grandi, me rappeler que j'allais à l'école en vélo avec mon chien, qu'il n'y avait pas de portail à l'école et qu'on pouvait aussi bien s'en échapper qu'y revenir à l'intérieur sans aucune sécurité. C'est pas pour autant que les enfants le faisaient, mais j'ai l'impression que voilà, qu'il y a un doux souvenir d'enfance, une espèce d'insouciance comme ça que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Et donc voilà, ça me fait énormément de bien d'y revenir. Je trouve que c'est très très apaisant.
À quel âge vous alliez en vélo à l'école tout seul?
Assez tôt, malheureusement, pour mes parents, je leur dis pas trop, mais tôt, on y allait. Puis jusque très tard.
Non, mais à quel âge?
Je sais pas, à 4 ans ou 5 ans, on peut aller à l'école en vélo tout seul.
Tout seul en vélo à 4-5 ans?
Tout seul, mais quand on doit faire 350 mètres et que sur la route, on croise les grands-parents de la moitié des élèves de la classe et qu'on récupère un bonbon par maison, finalement, le trajet est agréable.
Il n'y avait pas de colle à monter, là.
Non.
Et est-ce qu'il y avait une relation particulière avec les plus âgés, les anciens du village quand vous étiez enfant là-bas?
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce caractère bienveillant dont je parlais, des gens qui nous entourent. Comme je disais, à tort ou à raison, parce qu'effectivement, après, quand nous, on a basculé dans un milieu artistique comme la musique, qui avait les contraintes qu'on lui connaît, effectivement, on débarquait dans un monde dont on ne connaissait rien, et nos familles non plus d'ailleurs. Mais il y a cette connexion avec les anciens, on aime les appeler les anciens, mais qui sont souvent présents dans ces villages, on écoute leur histoire, leurs chansons, c'est ce que je disais, parfois pas en français, en occitan, donc on est un petit peu obligé, quand on est enfant, de se plonger dans cette culture qui nous a précédés. Et je trouve que du coup, les anciens
vous racontaient des histoires, vous aviez des moments de contes.
Exactement. De contes, comme on peut l'imaginer, avec un papy qui raconte à 3-4 enfants voilà ce qui s'était passé avant dans ce village, comment était, je sais pas, l'époque pendant la guerre, etc. Donc il y a vraiment, depuis tout jeune, j'ai l'impression, une espèce de profond respect de ces histoires, de l'héritage, des histoires en général d'ailleurs qui nous sont racontées. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'associe mon enfance à tous ces doux souvenirs apaisants et bienveillants.
Bon, elle fait envie votre enfance, on est un peu jaloux.
Merci.
J'aurais bien aimé avoir la même enfance.
C'est pas mal.
On continue à découvrir les Hautes-Pyrénées dans un instant, votre compagnie Florent Dasque. À tout de suite sur Europe 1.
(16h-18h)
Et si on partait ?
Philippe Googler
sur Europe 1.
Tous les après-midi, un grand voyage. Après 17h, nous irons au Brésil à parcourir les 8000 km de côtes et de plages de rêve. Et puis nous plongerons aussi dans la forêt amazonienne. Mais là, tout de suite, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, toujours en compagnie de l'un des chanteurs Boulevard Désert. Il s'appelle Florent Dasque, c'est un tarbé pur souche. Et le clip, Florent, de votre chanson « Cielo Ciego » a été tourné dans les rues de Tarbes. D'ailleurs, on l'écoute un instant. Voilà, on ne peut pas dire que vous êtes ingrat avec votre région, ça. Vous avez même joué dans un des endroits les plus incroyables, un concert donc dans votre région à 2877 mètres d'altitude au sommet du Pic du Midi.
Ah ouais, pas mal ça.
C'est vrai, incroyable moment. C'est donc un observatoire scientifique, en réalité, le Pic du Midi, qui est en activité toute l'année. Et effectivement, le directeur de l'observatoire que l'on connaît nous a proposé un jour cette idée folle d'organiser un concert au sommet du Pic du Midi. C'est un endroit qui n'est pas du tout fait d'ailleurs pour les concerts.
Mais, bah oui.
Mais l'idée était tellement attirante. Bon, alors, il n'y avait pas beaucoup de place, mais il y avait 400 personnes qui ont pu monter ce soir-là. Et effectivement, on a joué au-dessus d'une mer de nuages sur un panorama, comme vous pouvez imaginer, incroyable, à 360 degrés. Et c'était un concert complètement fou. Bon, il faut être en forme physiquement pour jouer à 3000, mais sinon, le panorama est magnifique.
Mais oui, parce qu'il faut respirer quand même, il n'y a pas d'oxygène là-haut.
Ouais, il y en a un petit peu moins, il fait froid, mais voilà, l'endroit était incroyable et ça nous a fait... Ça nous fait un souvenir incroyable de couper cette tournée comme ça des Zéniths par un petit concert de 400 personnes au Sol des Pays du Midi, c'est magnifique.
Et quels sont vos coins? Alors, s'il y avait deux coins préférés que vous nous conseilleriez par-dessus tout dans votre région?
Alors, c'est pas évident, et puis je vais faire offense à certains autres, mais vous en avez parlé en préambule, c'est vrai que ben voilà, le cirque de Garani, c'est un endroit incontournable. Voilà, il faut y aller pour admirer son panorama.
Et pourquoi puis, pourquoi, puis, là, moi, pourquoi, j'ai un petit... pourquoi vous l'aimez?
Encore une fois, je pense qu'on aime un endroit parce qu'il nous rappelle une certaine période de notre vie, ou en tout cas peut-être les premières fois on y est allé, ou une odeur, ou une sensation. Et moi j'en ai plein des très très bonnes. C'est vrai que je me rappelais en discutant l'autre jour qu'il y a un endroit dans la montagne qui s'appelle la Brèche de Roland qui est une histoire en fait un petit peu insolite, mais c'est un endroit par lequel on peut passer, c'est un passage vers l'Espagne en fait, et je me souviens qu'enfin bien souvent les scolaires sont amenés là-bas parce qu'on peut se rendre compte à quel point voilà, là on peut avoir un pas en Espagne, un pas en France, un pied en France, un pied en Espagne, et on se rend compte voilà à quel point la frontière est mince, et je me souviens de ce souvenir particulier, en tout cas, de se dire que voilà, on est si loin, si proche de l'Espagne, c'était un monde un petit peu particulier. Et après, il y a un village que j'adore qui s'appelle Cotteret, au-dessus de la vallée de Lourdes, qui est un petit village de montagne qui a, voilà, où les thermes sont réputés nationalement, même internationalement. Ouais. Et on peut y skier l'hiver et on y mange très bien. Ouais. Donc voilà, une espèce de concentré des Hautes-Pyrénées dans ce petit village.
C'est quoi l'accent des Hautes-Pyrénées?
Alors, si vous ne l'avez pas encore entendu depuis que je parle, c'est que je ne l'ai pas trop.
Encore un peu. Mais vous avez un petit accent tout à fait sympathique, mais je n'aurais pas dit tout de suite, tiens, c'est les Hautes-Pyrénées. Donc, s'il y avait quelque chose vraiment de caractéristique, ce serait quoi?
Je ne sais pas, c'est peut-être plus dans les expressions. Ouais, il y a des mots assez reconnaissables. Bah, en tête de file, ce que je disais, il y a quand même chocolatine qui est quand même reconnaissable du sud-ouest, du grand sud-ouest pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai rigolé parce que j'ai vu l'autre jour...
Ça, c'est au-delà des Hautes-Pyrénées, hein, c'est le très grand sud-ouest.
C'est vrai. Mais Hautes-Pyrénées, il y a quand même des boulangeries qui arrivent à mettre une chocolatine à 1 euro et un pain au chocolat à 2,50, donc j'ai trouvé la blague assez drôle. Voilà, pour les touristes qui viennent visiter la région, j'ai trouvé ça moyennement accueillant, mais j'ai trouvé ça drôle pour les locaux
marrant.
En tout cas.
Ouais.
Ouais, voilà.
Nathalie.
Et puis, je sais pas, il y a plein de...
Florence, oui. Si vous deviez résumer votre région avec juste un mot, mais très typique, qui nous emmène tout d'un coup très loin là-bas, ce serait quel mot?
Aïe. Ah, je ne l'ai pas là, je n'ai pas le mot. Je n'ai pas un mot typique.
Nathalie, vous aviez une idée en tête?
Non, justement, je cherchais l'expression occitane typique qui vous venait à l'esprit.
Non, alors par contre, il y a une phrase d'un groupe occitan qui est le plus connu, qui s'appelle Nadao, le groupe qui a joué plusieurs fois à l'Olympia d'ailleurs. Et son chanteur avait dit une phrase très belle en parlant d'ici, mais c'est une phrase qui peut s'appliquer à n'importe quel coin du monde. Quand on lui pose la question quand on lui dit, voilà, est-ce que tu es fier de l'endroit où tu viens? Il dit qu'être fier de l'endroit où on vient, c'est un peu étrange puisqu'on est né là où on est né par hasard, mais il dit, on est du pays de ceux qui nous ont aimés. Et j'aime beaucoup cette phrase.
Ça c'est magnifique.
Voilà.
On est du pays.
Voilà. Je citerai cette phrase-là.
Redites-moi là encore.
On est du pays de ceux qui nous ont aimés.
On est du pays de ceux qui nous ont aimés. Elle est très belle. Ce sera la chute.
Ça très beau.
On va finir là-dessus.
Parfait.
Merci beaucoup. C'était très agréable de vous avoir entendu parler de vos Hautes-Pyrénées. Je rappelle que Boulevard Désert, votre prochain album s'appellera Loin des yeux. Il devrait sortir le 6 novembre prochain. Donc c'est un ensemble de duos et de reprises avec des invités exceptionnels comme Vianney, comme Ellie J, Jérémy Frérot, etc. D'ailleurs, on va entendre dans un tout petit instant votre Emmène-moi célébrissime maintenant avec Ellie J. Et puis votre tournée des Zéniths a été reportée en 2021, c'est ça?
Tout à fait.
Bon, à cause du Covid, évidemment.
Je vous donne rendez-vous d'ailleurs à Paris, si vous êtes là, vous êtes les bienvenus.
Bon, on est tous fans dans le studio. Hein.
On est tous fans. Merci beaucoup, Florent Dasque.
Merci à vous, bonne fin d'émission, bonne fin de journée.
À très bientôt. On se retrouve dans un tout petit instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Hellal. Les histoires perchées dans l'histoire. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées pendant une heure jusqu'à 17h sur Europe 1. Et Nathalie, vous êtes partie sur les traces d'une véritable star.
Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres. J'ai pu quitter la terre ferme en fait. Et j'ai trouvé un moment où je n'avais plus d'espoir. La religion dans son regard.
Oui, alors on pourrait penser comme ça que je suis partie sur les traces de Bernadette, mais non, en fait, je suis d'abord partie sur les traces de Johnny Hallyday.
Pourquoi donc ?
Parce que Lourdes, c'est vachement rock'n'roll, Philippe.
Ah bon ? C'est oui. Pas le premier mot qui me
non,
vient.
Non, peut-être pas, mais moi, je voulais que ce soit le premier. Alors, figurez-vous que le taulier aurait eu 77 ans hein, le 15 juin dernier. Bien, certains de ses fans se sont retrouvés le temps d'un pèlerinage en son honneur. Ils ont roulé jusqu'à Lourdes en Harley. Et oui, il y a une tradition à Lourdes pour les bikers depuis les années 70. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas faire bénir leurs engins et se retrouvent en communauté. Au début, ils étaient environ 600 par an. À l'époque, dans les années 70, ils roulaient sur les pelouses du sanctuaire allègrement. Mmh. Il y avait une messe qui était dite à leur intention. Ça dure jusque les années à peu près 75-76, puis ça se calme un peu. Et puis la tradition reprend dans les années 90. Les bikers reviennent, mais cette fois, ils traversent poliment le sanctuaire à pied. Il y a une seule moto qui est autorisée à déposer un cierge sous la grotte des apparitions. Et figurez-vous qu'il y a même une prière spéciale qui a été écrite pour eux depuis 2010. Et elle dit en substance « Donne-moi, même si cela me coûte, d'observer le code de la route ». Authentique, ah, authentique.
Dans la grotte de Bernadette Soubirous.
Ben oui, il faut faire bénir sa moto pour éviter les accidents.
D'accord. Alors Bernadette Soubirous, on va quand même en parler parce que c'est,
oui,
c'est mythique, mais c'est une oh, le mot m'échappe. Dans
une
le
sainte.
Monde entier, une sainte.
C'est une icône
dans le
enfin,
monde
c'est surtout
entier.
Une sainte. Alors, vous savez que d'habitude, je suis assez leste. Là, je vais essayer d'être sage, Philippe. Alors, Bernadette, elle naît en janvier 1844. C'est la première enfant d'une famille unie où l'on prie beaucoup. Elle a une enfance plutôt heureuse, équilibrée. Mais elle est quand même fragile. Il faut dire qu'à 14 ans, elle mesure seulement 1m40. Elle fait des crises d'asthme. C'est une jeune fille qui a du caractère, mais malheureusement, elle est inculte. Analphabète parce qu'elle ne va pas à l'école, ce n'est pas du tout obligatoire à l'époque, je le rappelle. Et puis Bernadette, comme d'autres lourdais de son temps, elle ne parle pas, elle ne comprend pas le français ou très très mal. Elle parle un patois occitan gascon. Sa famille a malheureusement des revers de fortune, c'est la misère noire, donc elle doit servir au cabaret de sa tante qui s'appelle Bernarde. Ensuite, elle veille sur deux jeunes enfants, elle garde des agneaux, c'est toujours le mythe de la bergère. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ces histoires-là, il y a toujours une bergère.
C'est vrai.
Elle assure les corvées ménagères et puis alors qu'elle prépare sa première communion, elle fréquente une école tenue par des sœurs de la charité et là commencent les apparitions. Nous sommes le 11 février 1858, Bernadette est partie chercher du bois mort pour aider ses parents. Elle entend un bruit, comme un coup de vent. Elle sent, elle voit une lumière, elle sent une présence et elle dira d'ailleurs avoir vu quelque chose de blanc ayant la forme d'une dame.
Donc elle affirme déjà avoir vu la Vierge ?
Eh bien non, justement, elle ne dit jamais avoir vu la Vierge, mais elle dit « Akera », ça veut dire « celle-ci » en occitan gascon. En tout, il y aura 18 apparitions, beaucoup de polémiques, d'accusations, d'interrogatoires serrés. Et elle raconte toujours avec exactitude, sans jamais rien ajouter ni retrancher à ses propos. Évidemment, ça provoque ce qu'on appellerait aujourd'hui une tempête médiatique. Elle est au centre de toutes les attentions.
Ouais. Elle est la seule à voir à ce moment-là ?
Non seulement la seule à voir, mais la seule à entendre. Mais il y a une foule de plus en plus importante qui la suit en direction de la grotte de Massabielle quand elle s'y rend. Bernadette marche à genoux, elle baise la terre, elle tombe en extase. Un jour, elle creuse le gravier, elle découvre une source, la fameuse eau bénite de Lourdes, hein, qui va jaillir ensuite par litres. Et puis déjà, il y a des guérisons miraculeuses dès les premiers jours. Entre-temps, on essaye de faire interner Bernadette. Enfin bon, elle reste insensible à tout, aux menaces comme aux offres. Elle refuse même l'argent qu'on lui propose.
Oh, dis donc. Et comment elle finit sa vie, Bernadette ?
Eh bien, elle finit par entrer comme malade, indigente, à l'hospice tenu par les sœurs de Nevers. Elle devient religieuse, mais surtout pour se cacher, hein, pour se mettre à l'abri de cette notoriété forcée. Elle va prier toute sa vie pour les pécheurs. Elle meurt jeune, de tuberculose osseuse à 35 ans à Nevers. Elle est proclamée sainte beaucoup plus tard, en 1933. Il y a quand même un mystère, c'est que son corps, qui est toujours exposé dans la cathédrale de Nevers, il est intact ou il semble l'être, c'est-à-dire qu'il est en très bon état de conservation, ce qui est très étonnant.
Ah oui, vraiment ?
Oui, vraiment.
Et alors, parmi tous les miracles répertoriés à Lourdes, est-ce qu'il y en a un récent qu'on pourrait souligner ?
Oui, alors c'est encore une Bernadette, c'est pas la même, c'est Sœur Bernadette, là on est plutôt en 2008, c'est une religieuse atteinte du syndrome de la queue de cheval. J'ai bien dit la queue de cheval, pas la culotte de cheval. Hein. C'est une maladie très handicapante du périnée et des membres inférieurs avec des douleurs au bas du dos, un engourdissement et puis surtout une incontinence de la vessie ou des intestins. Enfin, c'est pas très joyeux, hein, comment vous dire. Alors, Sœur Bernadette va participer au pèlerinage de Lourdes, elle reçoit le sacrement des malades, et puis à son retour, quelques jours plus tard, elle ressent une chaleur dans tout le corps, une voix intérieure qui lui dit d'enlever son corset, ses attelles, elle interrompt ses traitements, et le jour même, elle est guérie. C'est un miracle reconnu en 2013, et c'est le 70e survenu à Lourdes.
C'est dingue. Et d'un coup, comme ça, guérit.
D'un coup, comme ça. Alors, je voulais vous dire quand même, au passage, que Lourdes, c'est aussi ce film satirique merveilleux qui réunit, de Jean-Pierre Mocky, qui réunit Michel Serrault, Jean Poiret et Jeanne Moreau. Ça, c'est pour les gens un peu moins croyants. C'est un film qui montre le mercantilisme régnant dans la ville avec l'histoire d'un faux handicapé poursuivi par un assureur qui veut le démasquer. Enfin, c'est vraiment un film culte pour tous ceux qui sont un petit peu mécréants sur les bords et qui ont envie de voir Lourdes d'un autre œil. La musique du film de Jean-Pierre Mocky, 1987, Le Miraculé, bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres sites miraculeux dans la région ?
Oui, alors il y en a un assez curieux, c'est la fontaine de Cratte, dans la commune d'Asté, donc c'est la vallée de la Haute-Bigorre. C'est déjà une fontaine connue depuis plus de 4 siècles, parce qu'on sait que Henri IV l'utilisait pour ses propriétés curatives. Et là, il y a des gens qui viennent de très très loin pour chercher de l'eau, se baigner dans la fontaine ou y faire tremper leurs chiens. Alors pourquoi leurs chiens ? Parce qu'on dit que les maladies canines, les maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis des chiens, ne résistent pas très longtemps à l'action de cette eau. Alors, elle est bonne d'une manière générale hein, pour toutes les maladies de peau et du cuir chevelu, pas seulement pour les chiens, heureusement d'ailleurs. Elle se boit, mais seulement en petite cure de quelques jours. C'est une eau très minéralisée qui contient plein de bonnes choses, du sulfate, du calcium, des bicarbonates, un bon taux de magnésium. Donc, c'est un peu une curiosité d'aller faire baigner son chien dans une station thermale.
Très bien.
Et d'où le thermalisme, bien sûr, très connu dans cette région des Hautes-Pyrénées.
Absolument, Jean-Bernard, je vous remercie.
Merci Nathalie Ella. Dans un tout petit instant, on retrouve Emmanuelle Jarry, la plus gourmande. Elle va nous emmener dans cette belle région des Hautes-Pyrénées. Et puis tout à l'heure, après 17h, nous partirons au Brésil. A tout de suite sur Europe 1.
h 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, deux destinations qui font rêver. Tout à l'heure, après 17h, nous partirons dans ce pays incroyable, ce pays que j'aime beaucoup. La relation avec les gens est exceptionnelle. C'est tellement facile d'y faire de belles rencontres sympathiques, joyeuses, festives. Alors, ça a l'air d'un cliché de dire ça, mais le pire, c'est que c'est vrai. Quand vous êtes sur place, vous le ressentez tout de suite. Nous irons au Brésil. Et puis, pour l'instant, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, une très belle région française, avec Emmanuelle Jarry, qui est allée chercher pendant des jours les bons produits de cette belle région. Elle a randonné, elle a gravi les sommets. Elle est arrivée épuisée, mais elle a trouvé.
Voilà, j'ai rapporté plein de belles choses, parce qu'en fait, on retrouve des produits rares, et parce qu'on fait la rencontre de plein d'hommes et de femmes dans ces montagnes, des montagnards avec un caractère assez dur, mais justement ça a permis de ce caractère enfin, assez obstiné de sortir de l'oubli ou peut-être même de la disparition certains produits comme le mouton, de Barège-Gaverny, qui est une race rustique. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on parle toujours des agneaux en France, hein, l'agneau des Pyrénées. Et là, c'est un mouton, donc c'est plutôt rare. C'est des animaux qui vivent entre 2 et 6 ans.
Ça, mais je vous avais dit de ne pas les ramener dans
le
studio.
Non, c'est ça, ils sont là à côté de nous.
Moi, je veux le berger, moi.
Non, j'ai rapporté uniquement les moutons, Nathalie. Et donc, voilà, c'est des animaux qui ont fait au moins deux étés en estive. Donc ça, c'est important pour le goût. Après, c'est une saveur qui n'est pas si forte, d'ailleurs, qui est assez typée, avec des parfums de réglisse, de serpolet. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet élevage et la perpétuation de ces pratiques a permis l'inscription du site de Gaverny au patrimoine de l'UNESCO au motif culturel. Exact. Il est inscrit pour deux motifs, naturel et culturel. Et ça, on le sait moins, parce qu'en fait, ces bergers français et espagnols entretiennent depuis le Moyen-Âge, enfin, les bergers français entretiennent avec les bergers espagnols des relations pastorales.
Ah oui,
en fait, les montagnes espagnoles sont moins propices au pâturage et donc les bergers espagnols passent du côté français l'été et emmènent. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup des vaches, autrefois c'était donc les moutons et les font paître tout l'été côté français.
Parce que les Français sont sympas, et qu'est-ce qu'ils ont en échange, les Français?
Bah, je pense qu'on leur... J'ai posé la question, on n'a pas trop su me répondre. C'est pas de l'argent, je pense qu'on fait du troc et on leur donne des animaux, enfin, de la viande.
Ouais. Ce qu'on
et
peut en juste fait... ajouter, c'est que du côté espagnol, en fait, c'est très aride.
C'est très
ça,
aride et sec,
différence.
Exactement. Et c'est plutôt vert et humide du côté français. Et exactement, on appelle ça, en fait, tous les ans, c'est en ce moment, hein, c'est autour du 25 juillet, la transhumance de la Bernatoire, du nom du lac où, en fait, les bergers se retrouvent, le lac de la Bernatoire, qui est très haut, à 2500 mètres. Et en fait, voilà, ils passent une journée ensemble et ils signent encore ces traités médiévaux. Et donc, voilà, c'est pour ça que le site de Gaverny a été inscrit au patrimoine.
On signe encore des traités
encore
régulièrement
ouais,
entre bergers.
Exactement.
Ah, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est des lois qui échappent un peu à la réglementation française. Et, ouais, ils vivent un petit peu en autonomie. Mais donc voilà, ça permet d'avoir des très beaux produits.
Bon, et il y a une autre rareté qui n'a pas disparu grâce à tous ces passionnés aussi, c'est le porc noir de Bigorre.
Ah oui.
Celui-là, j'aime bien.
Celui-là. Ah oui, celui-là, il est très, 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 très bon. En 1981, il restait 34 truies et 2 mâles. Donc, ce n'est pas beaucoup, il ne faut pas se planter.
En tout ?
En tout. Et alors qu'au début du XXe siècle, on en avait 28 000 têtes. À la fin, dans les années 80, on en était là. Mais ça, c'est le passage des années 60-70 en France. Ça a été terrible pour l'agriculture et l'élevage. Plus personne ne voulait de ce porc parce qu'il était, sa chair était très grasse. Et aujourd'hui, on l'apprécie précisément parce que sa chair est grasse. Donc, vous voyez, on a une réévaluation du gras dans les cultures alimentaires. Et en fait, on dit au contraire que c'est ce qui apporte sa saveur très subtile. Mais donc voilà, ces hommes se sont battus, ils sont mobilisés pour sauver la race. Et aujourd'hui,
c'est reparti
des élevages extensifs. Et c'est un produit même de luxe aujourd'hui, alors qu'on n'en voulait plus il y a 30-40 ans.
Et on a pu relancer une race à partir de 2 mâles seulement.
Bah oui, oui, ils sont vigoureux.
Qu'est-ce qu'il mange, ce porc de Bigorre?
Ah bah, il mange les glands dans les forêts, etc. Oui, il se nourrit quasiment qu'en extérieur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, bon, il y a la race qui fait qu'il est très gras, mais aussi sa nourriture.
Ouais.
Et alors évidemment, s'il est élevé dans ces montagnes, c'est pas par hasard.
Ouais. Et pourquoi donc?
Oui, c'est ça.
Oui, parce que...
Non, mais parce que c'est pas... Voilà, on peut se poser la question, pourquoi dans les montagnes? Et bien parce qu'en fait, il y a un vent espagnol qui vient, le fun qui vient d'Espagne et qui en fait, en passant au-dessus des Pyrénées, se charge d'humidité et en redescendant côté français, s'assèche. Et donc, les jambons profitent de ce vent pour s'assécher parfaitement. Et dans les séchoirs, il y a des fenêtres.
Oui.
Comme c'est un vent qui vient du sud-ouest, les fenêtres sont exposées côté sud et ouest. Et l'affineur, justement, il ouvre et il ferme périodiquement. Comme ça, il ajuste son affinage.
J'ai toujours dit, un jambon séché avec un vent de sud-est, c'est pas bon.
Ah bon,
alors
bah voilà.
Un vent sud-ouest, oui.
Bah ça, on a pris bonne note.
Hein. Ah ouais, mais c'est sûr.
Ça, je savais pas. Oui,
moi non plus, je savais pas.
Et bah voilà. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que c'est 20 mois minimum d'affinage, 24 mois en moyenne, 36 mois. Et alors, il y a même un effet Covid positif. Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Donc
non.
Là, je vous en donne un. C'est que les jambons ne se sont pas beaucoup vendus. Et donc, ils les ont affinés assez longtemps. Et donc, on va avoir cette année, il faut acheter du jambon.
Ouais, c'est bon à savoir, ça.
Ah bah oui. Là, il va être extraordinaire parce qu'évidemment, plus il est affiné, enfin, jusqu'à un certain niveau, meilleur il est.
Ils vont le brader aussi ?
Ah bah écoutez, non, ils ont beaucoup travaillé, ces hommes et ces femmes, il faut quand même les récompenser.
Mais donc si y a ce vent qui souffle, il y aura un petit air marin, un petit goût un peu iodé, non ? L'air marin dans les Hautes-Pyrénées,
non,
il vient
si,
de loin, du sud-ouest.
C'est un jour de grande tempête alors. Hein.
C'est juste qu'en fait, parce qu'au contraire, ils concentrent les arômes et tout en séchant, mais je crois pas du tout qu'il y ait... Non, il n'y a pas de côté
iodé,
marin. Non,
ouais.
Non, pas du tout. Ouais.
Côté dessert, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors là, il y a un dessert que j'aime énormément, c'est le gâteau à la broche. C'est assez connu, je ne sais pas si vous connaissez cette spécialité des Hautes-Pyrénées. Pyrénées, on la trouve aussi dans l'Aveyron. Nathalie Connell me fait signe que oui. Et en fait, on dit que c'est des soldats de napoléoniens qui, traversant le pays, sont arrêtés en Aveyron. La tradition est restée et après seraient remontés dans les Hautes-Pyrénées où ils avaient leur fiancée. Voilà, bon, ça c'est pour.
C'est sympa.
Voilà.
Encore des soudards.
Mais en tout cas, c'est des gâteaux énormes. Ils font plusieurs kilos. On les fait en général pour des fêtes. Donc, c'est des gâteaux qu'on fait pour 30, 50, 60 personnes.
60 personnes.
Moi, chez moi, j'ai une recette pour 60 personnes. Ça veut dire 6 douzaines de. Vous voyez, faut prendre le temps de.
Enfin, faut le moule à gâteau avec. Hein.
Non, alors justement. Parce que, en fait, ils sont pas faits dans des moules. En fait, c'est des gâteaux.
Cône.
Voilà,
ouais.
c'est des cônes en bois qui sont montés sur des broches.
Ouais.
On prépare donc les 6 douzaines d'œufs, les 2 kilos de beurre, 7 kilos de farine, etc. Ou je sais pas quoi. Et en fait, pendant ce temps-là, on prépare un feu. Donc, en cuisine, il se passe quelque chose. Dans le jardin, il se passe autre chose. On met les cônes à chauffer pendant une heure et on les tourne à la main. Parce que surtout pas de machine pour tourner la manivelle. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut garder la tradition. Et parce que si on le fait à la main, on va tourner de façon pas régulière et le gâteau va se former ainsi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on met la pâte sur le cône et en tournant, il y a des pics qui se forment. Des pics de pâte, voilà. Ouais. On accélère, on ralentit, on accélère. Et ça peut durer entre 3 et 4 heures à la fabrication de ce fromage. Voilà, donc encore un produit assez hallucinant. On se demande pas si c'est bon parce que c'est tellement incroyable, extravagant qu'on adore.
Ah oui, on aime parce que c'est original,
voilà,
mais
moi
pas
c'est...
parce que c'est bon.
Bah, je pense que c'est bon aussi, mais je pense que c'est surtout original et ça, c'est important de le noter.
Eh ben, on va partir goûter.
On aimerait bien, on aimerait bien. Emmanuel, merci beaucoup. Dans un tout petit instant, les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour aller visiter les Hautes-Pyrénées. À tout de suite.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1. Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en voyage dans les Hautes-Pyrénées et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet va nous donner tous ses bons plans pour profiter de cette région. Comment on fait ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on part quand on va là-bas, Jean-Bernard ?
Alors, un premier indice, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Alpes.
Bon, je crois dans les Alpes ?
Ouais. Un deuxième indice. Eh ben voilà,
les Hautes-Pyrénées. C'est le Tour de France.
Ouais, voilà, exactement. Les Hautes-Pyrénées, pour moi, c'est le symbole du passage du Tour de France avec des cols mythiques. Je vais refaire mon tour de table. Il y a un ou plusieurs noms de cols que vous auriez en tête, par hasard, qui ont fait la célébrité des Hautes-Pyrénées dans le Tour de France. Alors, il y a Aspin, effectivement.
Il y a le Tourmalet.
Le Tourmalet, exactement. Mon préféré, c'est le Tourmalet. C'est l'une des légendes du Tour de France. C'est le col le plus escaladé par les coureurs du Tour 80 fois depuis la création du Tour. 2115 mètres d'altitude, 19 km, 7,40% de moyenne de montée avec des kilomètres à plus de 10%. Franchement, entre
des
le
pentes,
Tour de...
vous voulez dire.
De pente, voilà, exactement. Entre le Tour de France et les Hautes-Pyrénées, c'est franchement une histoire d'amour et de passion. Alors cette année, je le précise, le Tour de France est décalé à fin août, début septembre. Les étapes 8 et 9, respectivement les 5 et 6 septembre, passeront dans les Hautes-Pyrénées. Mais cette fois, pas de Tourmalet au programme. En revanche, il y aura un autre casse-pattes que j'adore aussi. C'est le Marie-Blanc. Je l'ai fait rien qu'en voiture et rien que ça, ça tournait déjà beaucoup.
Vous l'avez fait en voiture et vous étiez fatigué.
Oui, j'étais fatigué, ouais, pour vous dire. Ouais.
Donc ça, bon, ça, vous laissez ça aux champions. Hein, voilà. Franchement, ce n'est pas la peine autrement. Et pour les gens comme nous ?
Pour les gens comme nous, il y a une autre option que j'ai dénichée qui s'appelle le gravel. C'est une nouvelle discipline en vélo.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une discipline qui vient un petit peu des États-Unis, d'Australie, là où les routes ne sont pas beaucoup goudronnées. C'est une espèce de vélo bien robuste, en alu, en acier, intermédiaire entre le cyclo-cross, le vélo de route, le VTT. Ça pèse 11 kilos. C'est un petit peu le 4x4 du vélo, si vous voulez. Ça vous permet d'aller un petit peu partout.
Avec des gros pneus, là ?
Avec des gros pneus, exactement. Donc, Emmanuel, quand vous louerez votre gîte quelque part près de Cotteray,
il faut que je fasse à vélo.
Voilà, vous le ferez à vélo. Vous pourrez vous circuler dans les petits chemins à côté,
d'accord,
aller dans les forêts avoisinantes, explorer les alentours de votre lieu de résidence. C'est une discipline qui est en plein essor et qui est beaucoup plus facile. Il y a même des gravels électriques.
Ah bon ? Ça, c'est
mais
bon,
ouais, voilà, ça, tout
c'est
est prévu.
Très
sans
bien.
Effort.
Alors ça c'est pour la montagne et à Tarbes si on en a envie.
Mais Tarbes, alors on a écouté notre ami chanteur qui nous parlait de Tarbes, effectivement avec passion, mais il a oublié de nous dire qu'en fait il y a un petit côté exotique à Tarbes. Chaque année au mois d'août, figurez-vous, cette ville de montagne résonne aux airs du tango. Qui l'eût cru ? Chaque année pendant une semaine en août, C'est Tarbes en Tango, c'est l'un des plus grands festivals de tango en Europe. Tous les étés, donc à la mi-août, depuis plus de 20 ans, les tangueros du monde entier se retrouvent dans les rues de Tarbes pour assouvir leur passion de la danse et se perfectionner auprès des maestros. Tenez-vous bien, chaque année, il y a 18 000 festivaliers de toute l'Europe qui se réunissent là. Il y a des animations partout dans les rues de Tarbes, des bals, des apéros tango dans les quartiers, les jardins. C'est autant pour les pros que pour les débutants, Nathalie. Si vous voulez une petite initiation, c'est...
Moi, j'ai un petit problème de col du fémur. Hein, déjà, mon âge, mamie, est pas vaillante.
Non, c'est pas vrai. Ne la croyez pas. C'est pour se faire plaindre.
Exactement. Mais il y a quand même un truc qui est aussi exceptionnel, c'est qu'on a parlé du pic du Midi à 2877 mètres d'altitude. Il y a même une milonga, c'est-à-dire une salle de danse qui est aménagée sur la terrasse de ce pic pendant ce festival. C'est franchement exceptionnel. Et Emmanuel, vous êtes bluffé là, non?
Non, mais oui, parce que je suis une fan de tango et je pensais qu'il fallait que j'aille en Argentine. Donc là, non.
Non, vous allez à Tarbes. Alors, pas cette année, malheureusement, le festival.
Oui, j'allais vous demander.
Ben oui, c'est le problème. Ouais. On attend 2021 pour la prochaine édition.
Bon, on s'entraîne à domicile en
attendant. Voilà, voilà.
À Lourdes, comment est-ce qu'on aborde Lourdes ?
Alors Lourdes, moi ce que j'aime beaucoup, et je l'ai vécu de l'intérieur, c'est la fameuse procession au flambeau qui a lieu tous les soirs en saison d'avril à fin octobre. Tous les soirs à 21h jusqu'à la cathédrale, enfin la basilique plus exactement. Il y a une procession d'une ferveur incroyable, c'est une marche au flambeau, procession au flambeau, dont chacun tient une petite bougie. Tout le monde chante, il n'y a pas besoin d'être pratiquant, c'est vraiment la ferveur, c'est une immersion émotionnelle, c'est une expérience unique à vivre. C'est une... Moi j'en avais presque les larmes aux yeux.
Ouais.
Peu importe les orientations confessionnelles qu'on puisse avoir, c'est vraiment une façon d'entrer en contact avec cette région très forte.
Et puis l'espérance qu'ont tous ces malades qui vont là-bas,
exactement.
Elle est extrêmement touchante. Qu'on y croit pas, peu importe, c'est pas le
sujet. C'est pas une question de croyance.
Mais leur espérance, tout ce qu'ils amènent comme intensité, c'est extrêmement touchant. Alors côté paysage, on a beaucoup parlé du cirque de Gavarnie. Vous avez d'autres petites pépites en magasin ?
J'ai mieux que ça. C'est le cirque
mieux,
de Gavarnie.
Non. C'est ça.
Mieux non,
Jean-Bernard. Le problème du cirque de Gavarnie, c'est que tout le monde le connaît. C'est l'attraction numéro 1.
C'est pas parce que tout le monde connaît que c'est pas bien.
Alors, c'est pas que c'est pas bien, sauf que j'aimais les petites pépites juste à côté. On va pas aller très loin, on va aller juste à côté du cirque de Gavarnie. Il y en a deux autres. C'est le cirque d'Estobé et de Troumouze. Ils sont un petit peu moins hauts que Gavarnie, mais ils ont un côté plus intimiste. Et j'aime ça, le côté intimiste.
C'est sûr que le cirque de Troumouze, ça, personne connaît. Hein.
C'est ce que je voulais
donc
dire,
des petites rivières, il y a des petits lacs. Il y a même un petit train à Troumouze qui vous y emmène si vous voulez pas marcher. Un petit train tiré par un tracteur, figurez-vous. Ouais. Et puis surtout, dans ces deux petits paradis que j'adore, il y a plein de marmottes. On les entend siffler, elles jouent à cache-cache, elles sortent leur tête par ici et par là.
Ouais.
Et vous pouvez un petit peu les siffler également. C'est un petit jeu avec les marmottes, c'est très sympa.
Siffle les marmottes.
Mais oui, on siffle les marmottes à Troumouze. Voilà. Donc n'allez pas à Gavarnie, allez à Estobé et à Troumouze cet été.
Bon. Et dans les montagnes des Hautes-Pyrénées ?
Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable et on n'en a pas parlé, c'est que dans le pic du Midi, c'est l'un des cinq endroits dans le monde où le ciel est le plus pur et une absence totale de pollution lumineuse. Savez-vous que les photos de la Lune qui ont été prises depuis le pic du Midi ont servi à préparer la mission Apollo en 1969 ? Donc c'est pour dire, il y a des stages d'initiation à l'astronomie qui se passent au pic du Midi. C'est aussi une expérience magique à vivre avec des scientifiques.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous irons dans ce pays qui mérite à lui seul plusieurs voyages. Le pays de la samba, du carnaval, de l'Amazone et de l'Amazonie, les deux. De ce pays où l'on peut se prélasser à Copacabana ou dans des cités coloniales magnifiques. Nous irons au Brésil. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait deuxième heure, c'est l'été. Tous les après-midi sur Europe 1, je vous emmène autour du monde, jusque dans les endroits les plus reculés, juste pour rêver. Décollage maintenant pour les profondeurs du Brésil.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène aujourd'hui sur un des fleuves les plus fascinants de la planète. Sur le fleuve Amazon, le fleuve au débit le plus impressionnant de la planète. Il est tellement large qu'au milieu, il y a des îles énormes. Il y en a même une qui est grande comme la Suisse. C'est l'île de Marajó. Thank you.
Carajo, c'est un peu comme une sorte de Camargue tropicale au milieu de l'Amazone. Une terre plate, marécageuse, beaucoup d'eau, de végétation et beaucoup de buffles. Il y aurait sur l'île trois fois plus de buffles que d'humains. Et pas n'importe quel buffle. Ce sont des très gros buffles massifs avec des cornes gigantesques. Des buffles noirs, un peu pâteaux, avec un air paisible mais qui semble d'une puissance indestructible. Sur cette île, il y a un détail étonnant, c'est que la police locale circule à dos de buffles. La première patrouille que je croise sur la route, elle se balade tranquillement sur ces bons gros buffles. Donc évidemment, je m'adresse à eux et je leur demande pourquoi la police sur des buffles comme ça, ça ne doit pas courir très vite s'il faut attraper un voleur. Ben, le policier rigole et me répond, mais si, on y arrive, il court quand même jusqu'à 20 km/h. Bon, là sur la route, c'est pas vraiment son élément, au buffle. Mais son avantage, c'est qu'il est très efficace dans la boue. Il est parfait pour patrouiller partout sur l'île. C'est vrai que les terres de Marajo sont quand même très très humides, voire marécageuses. Et le buffle de Marajo, c'est donc un vrai tout-terrain avec des capacités exceptionnelles. Et les policiers me proposent de les suivre le lendemain en patrouille dans la campagne. Leur mission, c'est de débusquer les voleurs de bétail. Le lendemain, me voilà donc perché sur un gros buffle. Pas tout à fait rassuré au début, mais la bête est plutôt calme. Elle se dirige d'une manière un peu rustique, c'est tout simple. Elle a un anneau dans le nez, attaché à une corde qu'on tire vers la droite ou vers la gauche en fonction de la direction où vous voulez l'emmener. Bon, il réagit lentement, mais il y va. On sent quand même la puissance de l'animal sous les fesses. Hein. C'est vraiment une masse de muscles qui avance. Donc, caractère plutôt doux, plutôt obéissant, mais les muscles sont là. Et tout se passe bien jusqu'au moment où le terrain devient un peu humide. On est dans un endroit où il y a beaucoup d'herbes, des étangs, de l'eau partout. C'est très marécageux. Et marécageux, c'est un peu insuffisant comme terme. Parce qu'on croit parfois être à côté d'une grande flaque d'eau au milieu des herbes, mais en fait, c'est un étang de plusieurs mètres de profondeur, mais on s'en rend pas compte. Alors, mon buffle suit de près les buffles des deux policiers, que je vois petit à petit s'enfoncer dans l'eau, jusqu'en haut des cuisses. Et là, je parle des cuisses des policiers. Les buffles, eux, ils sont tellement puissants que toute cette eau, ça ralentit à peine leur course. Et je vois aussi l'eau qui monte tout autour de moi. Le tout en silence, comme en glissant. J'ai les pieds dans l'eau, mais bon, vu la chaleur, c'est plutôt agréable. Puis tout à coup, les buffles des policiers s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour me laisser passer devant. Les deux agents ont un petit sourire en coin et donc je devine qu'il y a quand même un petit guet-apens. Mais bon, comme ils sont sympas, je fais semblant de rien et ils m'invitent à continuer à avancer. Et là va se produire quelque chose d'incroyable. Il y a de plus en plus d'eau, c'est de plus en plus profond. Et donc tout à coup, mon buffle n'a plus pied. Et il s'enfonce entièrement sous l'eau. Et je comprends pas ce qui se passe. Il n'y a que moi qui dépasse. Le buffle est entièrement sous la surface de l'eau. Donc je suis quand même inquiet, je vous avoue. Je pousse un grand cri. Est-ce que j'ai l'impression que ma monture se noie, que l'animal va disparaître vers le fond. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois sauter à l'eau, quitter l'animal? Je sais pas ce que je dois faire, on m'a rien dit. J'imagine au moment que je vais abandonner mon buffle à son sort tragique et puis je regarde la situation. Où sont les berges? Est-ce que je vais devoir nager longtemps? À quel moment est-ce que je dois sauter dans l'eau? Pourtant, je sens que sous mes fesses, le buffle continue à avancer sous l'eau et de plus en plus profondément. Alors, est-ce qu'il marche au fond de l'eau? Est-ce qu'il nage? Et c'est incroyable. Je sens qu'il nage. Il progresse d'une manière calme, uniforme, comme un nageur paisible en apnée. La sensation était absolument unique. C'est comme si j'étais assis sur un sous-marin dont je serais le périscope. Et comme ça, j'avance sans bruit vers une zone où l'eau est de plus en plus profonde. C'est complètement fou. Et je me demande combien de temps mon buffle va pouvoir tenir ainsi en apnée, sous l'eau. Donc je me retourne vers les policiers qui me suivent à distance en rigolant. Donc je leur demande, mais combien il va tenir ? La pauvre bête, elle va se noyer. Et le policier me répond, mais regarde devant toi, tu vas avoir une surprise. Et là, j'ai à peine le temps de me retourner que j'entends un souffle. Un souffle énorme, un peu comme le souffle d'une baleine. Et ce sont les deux naseaux du buffle qui apparaissent alors à la surface devant moi. Et puis il sort toute sa tête, il respire. Et il continue à nager comme ça, dans une espèce de calme olympien, la tête hors de l'eau. Et bien, je ne vous cache pas qu'être emporté par un buffle au milieu des flots, paisiblement, dans un silence total, au milieu d'un marais d'Amazonie, c'est une sensation que je ne suis pas prêt d'oublier. Et c'est même un des moments les plus intenses que j'ai partagé avec un animal. Et il y a toujours un petit quelque chose en moi qui me dit qu'un jour, je retournerai voir mon buffle de marajan.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler.
Dans quelques instants, nous irons encore plus loin dans les profondeurs de l'Amazonie et du Brésil. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tous les après-midi sur Europe 1, nous partons très très loin, sans aucune limite, juste pour rêver, juste pour se faire plaisir. Nous sommes au Brésil, un pays immense. Je vous dis, il faut 15-20 voyages pour le découvrir, le Brésil. Jean-Bernard, on situe un peu géographiquement ?
Ouais, c'est le plus grand pays d'Amérique du Sud. C'est vraiment un géant, un colosse. C'est le cinquième plus grand pays du monde. Pour donner une petite idée, 15 fois la France, hein, quand même. Des distances gigantesques. 4400 km dans la plus grande distance du nord au sud. Et 4400 km d'est en ouest, vous voyez un petit peu. Et puis la plus vaste forêt tropicale du monde, évidemment, c'est l'Amazonie.
Absolument. Voilà. En Amazonie, où les gens se déplacent en avion. Mais alors, c'est très marrant parce que les avions, c'est comme des bus. C'est-à-dire que vous prenez l'avion, l'avion est quasiment sur un parking, j'exagère, mais c'est quasiment ça. Les gens montent, et l'avion décolle, il atterrit au frein à main, hop, vous descendez vite fait, ouais. Il est reparti, et il enchaîne, il fait des cycles comme ça.
Comme un omnibus.
Ouais. C'est assez étonnant. Et les villes, vous êtes dans une ville, la suivante, elle est à 600 km. Ouais. Hein.
Et c'est normal. C'est tout près, 600
près.
Km.
C'est ouais. Tout près. Non, c'est un pays incroyable. Nous sommes en direct de Rio de Janeiro, rien que le nom.
Ah oui, on y est, là.
Avec Aude Chevalier-Baumel, qui est réalisatrice installée là-bas depuis 13 ans. Bonjour Aude.
Bonjour.
Je suis jaloux.
Mais non, il ne faut pas.
Je suis jaloux de vous. Vous avez choisi Rio en plus dans ce pays que j'adore. C'est une ville formidable. C'est une ville à la plage. Hein. C'est-à-dire que souvent, on ne le dit pas assez, mais c'est une succession de baies, Rio. Et c'est une succession de quartiers logés comme des plages, en fait.
C'est ça, exactement. C'est la plage dans la ville.
Ouais.
Et c'est très agréable.
Et c'est très agréable. Comment c'est au quotidien ?
C'est pratique. Quand on aime la plage, quand on aime le soleil, quand on aime faire du sport, quand on aime rencontrer ses amis, c'est pratique. La plage, on peut y aller à pied, en vélo, en bus, en métro. Et on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. On se donne rendez-vous au poste. Il y a des postes tous les kilomètres avec ses amis et surtout pas d'heure, parce que les cariocas n'aiment pas l'heure.
Le poste, c'est un endroit sur la plage. Hein. Il y a poste 1, poste 2, poste 3.
C'est ça.
Donc on donne rendez-vous à ses amis, au poste 4 sur la plage de Copacabana par exemple, parce que les gens se donnent rendez-vous sur la plage pour discuter, hein. Ça peut être un rendez-vous de boulot.
C'est ça, tout à fait, pour discuter, pour boire, pour grignoter, pour faire du sport aussi beaucoup, Voilà. Mais les gens, ils vont aussi tout seuls pour se faire bronzer ou pour observer ou pour draguer. Tout est possible.
et l'apéro sur la plage de Rio à Copacabana ou à Ipanema, c'est formidable. On a envie d'en faire un tous les soirs.
Vous avez testé, Philippe ?
Oui, j'ai testé.
Voilà. C'est formidable.
Je suis accro. Et est-ce que les gens se baignent vraiment ou est-ce qu'ils vont juste à la plage ?
Non, les gens se baignent, mais ils ne savent pas forcément nager.
Ah bon ?
C'est un peu le problème. Les vagues sont plutôt fortes à Rio, ça dépend des saisons, mais les vagues sont assez fortes. Donc les gens se baignent très vite, jusqu'à la ceinture, ils vont pas très loin, sauf ceux qui savent nager. Parce que les gens ne savent pas vraiment nager, à part ceux qui habitent très près de la mer et qui y vont tous les jours et qui du coup font du surf aussi. Mais les vagues sont très impressionnantes des fois, donc on s'y mouille surtout beaucoup parce qu'il fait très chaud. Ouais. Mais on reste pas vraiment comme en France à faire la crêpe sur la serviette. Les gens sont beaucoup debout sur la plage. On discute debout, on prend le soleil debout, on fait du sport aussi debout, on boit, on trinque debout. C'est aussi peut-être une façon de se montrer, d'être vu, voilà.
Oui, parce qu'il faut quand même, comme c'est une culture de la plage, il faut quand même être à l'aise avec son corps pour donner des rendez-vous professionnels en maillot de bain sur la plage.
Et les Brésiliens sont plutôt à l'aise avec leur corps, et pas que les Brésiliens qui ont des corps sculptés. On voit un peu tous les corps possibles à la plage. Et généralement, les Brésiliens sont plutôt à l'aise avec leur corps, aiment prendre le soleil. Les Brésiliens aiment beaucoup le soleil. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment de tabou, à part le topless, qui est quand même pas du tout toléré et même interdit.
Ah ouais.
Voilà. Si, ouais.
Oui. Emmanuel ?
Oui, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, on se rend même à la plage en maillot de bain. C'est-à-dire que on se dévêtit pas sur la plage, on y va, on prend le bus en maillot de bain.
Alors oui, les gens qui habitent vraiment tout à côté de la plage, ils descendent de chez eux en slip, même sans tombe, pieds nus, avec
en
juste
ville.
Les voilà, en ville, exactement. À Copacabana, c'est assez fréquent. Oui.
Et le topless n'est pas toléré, mais par contre les strings, oui.
Oui, voilà, je l'ai dit, c'est le tanga.
Voilà, c'est la grande contradiction au Brésil.
Est-ce qu'il y a toujours le queijo quente sur les plages?
Il y a toujours le queijo quente qui est très bon. Il a été des fois il est interdit comme ça par phase pour des raisons sanitaires. Et puis mais les vendeurs sont toujours là. Alors le queijo quente, c'est vous voyez un vendeur, vous le voyez pas d'abord, vous sentez cette odeur de fromage grillé qui s'approche de vous et puis vous voyez un vendeur avec un petit four très artisanal et déplaçable comme une petite valise.
16h 18h Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours entre 16h et 18h, un très grand voyage sur Europe 1. Nous sommes aujourd'hui au Brésil. Et là, je voudrais vous emmener à l'embouchure d'un fleuve dans la région de Curitiba. C'est plus au sud. On parlait de Rio il y a un instant. Là, il faut aller plus au sud, sur la côte. Et il y a des pêcheurs vraiment pas comme les autres, là. C'est une pratique assez extraordinaire. Ils pêchent avec l'aide des dauphins. Alors j'ai un jour suivi un pêcheur, alors on est entré dans l'eau au bord du fleuve, alors on a de l'eau disons jusqu'à la taille, et lui il est avec un filet à la main, filet de pêche quoi, et avec ce filet il tapote l'eau légèrement. Alors, c'est un peu étrange comme technique parce qu'il tape l'eau avec un bout de filet mais il ne lance pas le filet. Alors on est là, on attend un peu, c'est un peu mystérieux, et tout à coup, et ça c'est vraiment très étonnant, on voit apparaître une nageoire sortir de l'eau, la nageoire dorsale d'un dauphin qui se met à tourner là autour à une vingtaine de mètres, pas plus. Il y a un dauphin qui arrive, c'est quand même chouette. Et puis une deuxième nageoire, et puis trois, et puis quatre. En fait, j'ai l'impression que les dauphins connaissent le signal, que le petit bruit que fait le pêcheur avec son filet, bah, c'est le signe que la pêche commence. Et c'est assez technique hein, ce qui va se passer, parce que en tapant sur l'eau avec le filet, en fait, le pêcheur fait peur aux petits poissons qui sont un peu partout dans le coin. Les petits poissons entendent le bruit du filet, ils s'en vont. Ils s'enfuient. Ils s'éloignent du pêcheur. Mais tout autour, il y a les dauphins qui sont à l'affût. Et eux, ils vont attaquer les poissons pour les croquer. Ils vont leur foncer dessus. Et du coup, ils vont les rabattre vers le pêcheur. En gros, les petits poissons, effrayés cette fois par les dauphins, vont faire demi-tour, plus groupés, et ils retournent vers les pêcheurs qui, du coup, n'ont plus qu'à lancer leur filet pour les attraper. Et c'est une technique absolument géniale. En gros, c'est un partage de services, une saine collaboration entre les dauphins et les humains. C'est une technique très étonnante, très pratiquée dans cette région de Curitiba. C'est, puis en plus, pour ceux qui passent par là, c'est un beau spectacle de voir des pêcheurs, l'embouchure du fleuve, la mer et les dauphins. C'est en plus un très, très chouette moment.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Vous voulez pas qu'on fasse 4 émissions sur le Brésil enchaînées. Alors, moi, ce que j'aime aussi beaucoup au Brésil, c'est la relation avec les gens. Et là, nous sommes en direct avec Aude, qui est réalisatrice installée à Rio. Nous sommes en direct avec elle, elle est à Rio. Ce qui est sympathique, je crois, avec les Brésiliens, et vous allez me confirmer ça peut-être, Aude, c'est leur rapport au présent. C'est-à-dire que souvent, c'est un cliché de dire ça, mais c'est très vrai. Moi, je discutais avec un fabricant de cosmétiques qui disait qu'au Brésil, il est difficile de vendre des crèmes anti-âge parce que ça ne les intéresse pas, c'est pour dans longtemps. Mais en revanche, la chirurgie esthétique, ça les intéresse. Et est-ce que dans les relations avec les Brésiliens, vous le ressentez aussi, ça, Aude?
Oui, au quotidien, c'est vrai qu'on apprend aussi à vivre plus le moment présent et souvent, c'est très bien. Les Brésiliens vivent intensément le moment présent. Par exemple, on peut devenir ami très vite avec quelqu'un qu'on rencontre comme ça à une terrasse de bar ou à la plage, et puis on a l'impression, on passe la journée ensemble, on devient ami, et puis au moment où on dit bon, on va se revoir, on prend rendez-vous, et là les cariocas disent oui, ok, on va se voir. Donc c'est toujours voilà, on ne se projette pas dans l'avenir, on profite du moment présent.
Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec quelqu'un quand même, ou ça ne marche jamais?
Alors, il faut, mais il ne faut pas être très ponctuel, quoi. Il faut compter facilement une demi-heure, voire une heure. Enfin, il faut avoir le temps, en fait. Voilà. À Rio, les cariocas sont souvent en retard.
Ouais. Est-ce qu'on peut quand même se faire des amis ou ça reste superficiel?
Non, on peut se faire des amis, mais se faire des amis dans un bar, ça ne veut pas dire qu'on ne redeviendra pas amis. Si on recroise la personne un an plus tard, la personne se souviendra de vous et vous sautera au cou comme si vous étiez son meilleur ami. Donc, il y a énormément de monde, donc comme dans une grande ville, ce qui fait que les amitiés se renouvellent. Mais y a quand même, les cariocas sont très proches de leurs amis d'enfance, du collège, du lycée. Ils gardent comme ça des amitiés de très longue date. Et puis les autres amis, ils viennent se greffer comme ça tout au long de la vie. Et voilà, c'est un peu différent.
Est-ce qu'on fait autant la fête qu'on le dit au Brésil?
Ouais, quand même.
Alors, on est
faire la fête, mais c'est une fête quotidienne. Un exemple, c'est le dimanche soir. Alors le dimanche, c'est génial parce qu'en France, le dimanche, c'est plutôt déprimant. Au Brésil, le dimanche, c'est la journée où il y a le plus d'options pour sortir, le plus de fêtes possibles. Et en fait, les cariocas sortent le dimanche soir jusque très tard pour profiter au maximum du week-end, en fait. Donc le dimanche soir, il y a des concerts, il y a des bals, et donc la fête peut durer jusqu'à très tard le dimanche soir. Et par contre, généralement, on se couche tôt le lundi soir, voilà. Mais c'est pas grave, on sort quand même très tard le dimanche soir. Mais
c'est un très bel exemple ce que vous dites, parce que chez nous, le dimanche soir, on est un peu triste parce qu'on pense au lendemain. Et eux, au contraire,
exactement,
ils essaient de prolonger le présent le plus possible parce que c'est dimanche et donc il faut en profiter.
Sans souci du lendemain.
Et voilà. Et ça,
tout à fait.
Très,
les meilleures
très bel
fêtes
exemple.
Sont le dimanche soir. Ouais.
Merci beaucoup, Aude, de nous avoir raconté votre Brésil. Je vous souhaite longue vie à Rio et je vous répète que je suis extrêmement jaloux.
Mais venez.
N'insistez pas. Au revoir, Aude. Merci beaucoup.
Au revoir.
Dans un tout petit instant, sur Europe 1, nous retrouverons Nathalie Elal et ses histoires insolites. Et Dieu sait qu'au Brésil, ça doit être croustillant.
En fait, comme un petit... qui est en fait un petit four en fer dans lequel il a des braises et sur lequel il fait griller ses petits fromages qu'il empale dans des petits bâtonnets, comme des glaces. Et voilà, et ça se grignote grillé comme ça au bord de l'eau. C'est délicieux.
Avec des petites herbes, j'adore ça, j'adore le Cajun.
Voilà, avec des petites herbes, avec ou sans herbes, effectivement.
Bon, vous restez avec nous parce que là, on est vraiment partis. En précisant quand même, avant de se donner rendez-vous dans quelques instants, que Rio, c'est pas tout le Brésil. Hein.
Rio, c'est vraiment très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Vous avez des villes où il fait froid l'hiver, comme par exemple Porto Alegre, il fait 10 degrés l'hiver au Brésil, et l'ambiance est radicalement différente. Ou alors vous avez des villes comme Manaus, qui est en pleine forêt amazonienne, et là encore, c'est radicalement différent. Et c'est ça qui fait la force du Brésil, c'est qu'on peut en parler pendant des décennies. On se retrouve tout de suite, Aude Chevalier-Baumel, sur Europe 1, pour parler du Brésil dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Voilà. Nous sommes au Brésil. Vous l'avez compris, tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et Nathalie Elal.
Oui.
Qu'est-ce
Philippe.
Que vous nous avez dégoté comme histoire?
Ben, une spécialité brésilienne un petit peu à part, il faut bien le dire. Il s'agit de la chirurgie esthétique.
Eh ben oui.
Dont on peut dire qu'elle est un des piliers du patrimoine et même du mode de vie brésilien. C'est le pays du grand ravalement, si vous me passez l'expression. Parce qu'on se fait tout refaire sans aucun problème. Les seins qui tombent, le nez crochu ou en trompette, la bouche trop mince, les fesses capitonnées ou pas assez bombées, le ventre à pneus, les paupières tombantes et même les organes intimes.
Ah bon ?
Histoire de les rajeunir. Oui.
C'est possible.
Oh non.
Alors, même les ados sont des fans absolus du bistouri. Là-bas, le cadeau, c'est pas du tout un téléphone portable, rien à foutre. Ce sont des liposuctions, des implants mammaires ou des, comment dit-on déjà, l'ostéoplastie, le recollage des oreilles pour les 15-18 ans. Presque toutes les classes sociales sont concernées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des crédits ou des paiements échelonnés. Et oui, absolument, ça concerne la chirurgie esthétique au Brésil. 50 millions d'individus, c'est quand même pas rien.
C'est
oui,
énorme. Hein.
Ça en et fait les... des prothèses.
Mais, ah oui, ça en fait.
Et les hommes donc inclus. Hein.
Oui, parce que c'est valable pour les femmes comme pour les hommes qui sont quand même, il faut bien le dire, plus discrets hein, sur le sujet, notamment la réduction artificielle des volumes mammaires, un sujet très sensible chez les messieurs.
La réduction des volumes mammaires chez les hommes.
Oui, oui, un sujet très sensible, je ne m'étendrai pas sur la question. Ainsi que la liposuction des graisses abdominales. Il y a beaucoup de pneus qui se perdent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est un sujet encore délicat en France, mais totalement intégré dans les mœurs là-bas. Le culte du corps, c'est l'art de vivre. Donc, être sexy, être bien dans sa peau, bah, c'est aussi savoir la retendre quand il faut, comme il faut. Et comme dans toute discipline, il y a un maestro, il y a une légende qui a bouleversé le monde de la chirurgie esthétique. Autant vous dire que son nom là-bas est aussi populaire que celui de Zidane ou de Goldman chez nous. Sauf que lui, il tape pas dans un ballon et puis il joue pas non plus de la guitare. Alors Ivo Pitanghi, c'est son nom, était, parce qu'il est décédé, une star du scalpel dans les 60s. D'abord, il a été formé à l'université de médecine de Rio, à la chirurgie réparatrice. Puis, il a découvert la chirurgie plastique faciale. On peut dire que cet homme est un héros, et là, je ne plaisante pas, parce qu'il a réparé bénévolement plus de 500 personnes qui avaient eu le visage défiguré par les flammes d'un grand incendie à Rio au début des années 60. Pendant 3 jours et 3 nuits, cet homme a fait des greffes de peau, des opérations réparatrices. Ensuite, il a ouvert sa clinique en 1963, puis une école de chirurgie plastique. Il a accueilli des centaines de chirurgiens venus du monde entier. Il a obtenu vraiment ce qu'on a appelé des résultats naturels grâce à ces techniques. Il a rendu la chirurgie réparatrice gratuite dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Santa Casa de Misericordia. Vraiment un enseignement réputé. Beaucoup de clients célèbres. On cite Mitterrand. Alors probablement
ah bon
les paupières. On sait que Mitterrand s'est fait limer les dents, mais ça c'est pas au Brésil. Oui, il avait des canines un peu de vampire. C'était pas joli pour les affiches. Donc il s'est fait opérer des paupières, probablement par
ah
ce
oui
chirurgien.
Ah,
la duchesse de Windsor, la fameuse Wally Simpson qui rigolait pas du tout, Mick Jagger, Niki Lauda, enfin plein de gens célèbres, disparu en 2016 à 93 ans. C'est vrai qu'Ivo Pitanghi a mis au point de nombreuses techniques réparatrices comme la plastie des fesses, le type d'opération le plus pratiqué au Brésil avec la chirurgie des seins. Il faut dire que les Brésiliens sont complètement fétichistes des fessiers féminins. Il y a même une Miss Boom Boom, ça veut dire fesses en portugais,
qui, Miss est, Boom Boom.
Oui, qui est élue chaque année. Alors bon, le pays pleure encore ce bienfaiteur de l'humanité dont on espère qu'il est parti sans une ride.
Très bien, très intéressant Nathalie.
Je vous remercie.
Très très étayé comme sujet. Merci beaucoup. Nathalie, il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est de la sécurité, Jean-Bernard, au Brésil. Alors tout le monde dit le Brésil, je ne vais pas y aller, c'est dangereux. Alors, bah, on ne peut raconter que nos histoires personnelles par rapport
histoire,
à ce pays.
Elle est super favorable, justement. Je me suis toujours senti en sécurité. Pourtant, on va en parler. J'étais à Recife et à Fortaleza, qui sont deux villes du Nord-Est où, soi-disant, les taux de délinquance sont très élevés et les taux de crimes sont très élevés. Je n'ai pas du tout ressenti ça. J'ai même laissé à un moment donné dans mon véhicule tout mon matériel photo, plus de 10 000 euros au vu au sud de tout le monde.
C'était là, mon vous avez un peu cherché le problème.
C'était une petite ville. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas ressenti, dans les trois semaines où j'ai passé mon temps dans le Nord-Est, je n'ai pas ressenti une seule fois un moment d'angoisse par rapport à ça. Donc, c'est très particulier. Et en même temps, on entend des gens aussi qui se sont fait détrousser.
Oui. Oui, parce que ça existe.
Donc, on conseille pour les femmes de ne pas porter de boucles d'oreilles ni de bagues. Donc
j'ai une relation assez ambivalente avec ça. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait, Philippe, parce que les échos sont très contrastés.
Il y a des pratiques de voyage, de comportement, de ne pas trop, effectivement, pas trop se montrer, d'être un petit peu...
Voilà, moi c'est ça que je dirais. Les Brésiliens ont très peur, donc je ne pense pas que tous les Brésiliens soient parano. Donc il y a des problèmes de sécurité, mais je crois qu'effectivement, si on est très prudent, si on fait le minimum, si vous n'allez pas vous promener avec une montre hors de prix au bras dans les favelas, si vous n'allez pas avec votre portable à la main en pleine nuit sur la plage de Copacabana, je trouve qu'il y a beaucoup moins de risques. Il s'agit d'être sage, en fait.
Ouais, ça fait faire ce qu'on appelle du bon sens, c'est tout.
Et de fréquenter les bons quartiers, parce que moi, souvent, on m'a dit à Salvador, ah ben non, tu vas dans cette rue, mais pas dans celle-là. Mmh. Attention, tu tournes pas à droite, mais à gauche, des choses comme ça.
Ouais. Enfin, il faut quand même dédramatiser, c'est ça que je veux dire.
On peut aller au Brésil.
Faut pas être parano quand on va au Brésil.
Absolument. Voilà. Et puis, écouter les Brésiliens, comme vous le dites, Emmanuel, parler beaucoup. Ce qu'il faut faire, pas faire, où aller, comment y aller. Et c'est toujours dans les échanges qu'on s'en sort le mieux. Dans un petit instant, on retrouvera Emmanuel Jarry sur Europe 1 pour parler cuisine. Et c'est vrai qu'au Brésil, il y a de quoi faire. À tout de suite.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, nous sommes au Brésil et cette fois avec Emmanuel Jarry. La cuisine, les saveurs, c'est un monstre le Brésil.
Ah oui, c'est énorme.
Par quel bout vous l'attaquez ?
Eh ben oui, justement, ça a été bien compliqué de...
Mais oui.
En disant, je vais parler de quoi ? Alors, d'abord, je voulais vous parler de Rio. On en a un petit peu parlé là. Enfin, pas mal déjà.
Beaucoup
mais...
même.
Oui, mais je voulais juste quand même parler d'un restaurant que j'ai... Enfin, un type de restaurant que j'aime beaucoup, c'est les churrascarias.
Ah oui.
Parce que c'est quand même impressionnant. On a essayé d'en faire venir en France, de reproduire le modèle, mais ça marche pas. En fait, c'est influencé par l'Argentine et l'Uruguay. C'est des
barbecues. Pas pour les végétariens.
Non, pas du tout. On mange beaucoup de viande et en fait, c'est de la viande qui est grillée, qui est cuite sur des grandes broches. Mmh. Et c'est un balai incessant de serveurs qui passent. Entre les tables et qui propose toutes sortes de viandes. Et donc, si on fait un signe oui de la tête, ben, il découpe de la viande dans l'assiette.
Et il y a même un resto, peut-être que vous alliez en parler, je ne veux pas vous griller, mais
non.
Que j'adore, c'est un resto. C'est le contraire, c'est-à-dire. Tant que vous ne faites pas de signes, on vous rajoute de la viande.
Oui, alors je me suis mal exprimée, c'est ce que je voulais dire.
Ah,
et on a des petites cartes, moi j'avais des petites cartes posées sur la table. Côté vert, ça veut dire oui, on sert en permanence. Côté rouge, le serveur arrête de vous servir.
Ouais.
Et dans ces endroits, il y a aussi des très très grands buffets où il y a tous les produits du monde. Il y a des produits italiens, des produits espagnols et beaucoup de sushis parce qu'en fait, il y a une très grande communauté japonaise au Brésil, notamment à São Paulo. Et donc, on retrouve aussi cette influence japonaise dans la cuisine avec des petites brochettes, comme font les Japonais, mais avec des épices brésiliennes. Et puis surtout, sur la côte et un tout autre genre, il y a la fascinante cuisine de Salvador de Bahia.
Ah oui, là, ça n'a rien à voir. On est plutôt sur une influence africaine.
Oui, tout à fait. Et en fait, la figure de la cuisine... La cuisinière africaine est tellement importante à Salvador qu'elle pose dans la rue pour les touristes. Donc elle habille avec des robes bouffantes, avec un foulard sur la tête et elle cuit des beignets, les acarajés, qui sont des grosses boulettes de haricots écrasées dans du sel et des oignons frits dans l'huile de palme.
Très léger.
Oui, non, ça c'est vrai que là, non, à Salvador c'est pas du tout léger parce que tout est frit. Mais c'est vrai que c'est toute cette cuisine qui est un mélange entre l'Afrique, le Portugal et puis les produits endémiques comme le manioc parce que le manioc vient d'Amazonie. Donc on mange à Salvador par exemple des gratins de morue à la farine de manioc. Donc voilà, c'est cette double influence portugaise-amazonienne. Et moi, je voudrais vous raconter une anecdote autour d'un plat.
Ouais.
Parce que quand je suis partie en reportage à Salvador de Bahia, quelques mois avant, j'étais à Sao Tomé, dans le golfe de Guinée.
Oui.
Et vous savez, ce pays qui est très connu pour la production de cacao, qui était le premier pays producteur au 19e.
Et donc, c'était une colonie portugaise et de nombreux esclaves africains sont venus travailler dans les plantations. Et donc, on m'a servi un kaloulou. Donc ça, c'est un ragoût de viande qu'on fait à Sao Tomé avec beaucoup d'herbes qu'on trouve là-bas. Et quand je suis arrivée à Salvador, on m'a servi un carourou. Et donc là, c'est un ragoût de viande, mais avec des légumes accommodés un peu différemment. Ouais. Et en fait, on a les mêmes cultures qui se sont rencontrées, c'est-à-dire l'Afrique, le Portugal et les cultures après endémiques. Donc, ce n'est pas tout à fait le même accommodement, mais toujours cette mélange d'inspiration entre la culture dominante et puis les cultures locales. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est un parfait exemple de comment voyagent les recettes et s'adaptent en fait en fonction des contextes. Mmh. Et en fait, dans le cas du Brésil, on a évidemment l'Amazonie. Hein, c'est ce fabuleux terroir qu'on connaît pas beaucoup.
Non.
Même les Brésiliens en fait connaissent plus, me disait-il, les cariocas, les habitants de Rio connaissent plus le foie gras que la fleur de jambu, par exemple, qui pousse en Amazonie. Donc soit les fruits, les légumes, les poissons de rivière ou le gibier, ça reste méconnu et c'est un trésor.
Il y a un produit quand même d'Amazonie qu'on connaît en Europe qui est assez tendance,
ouais.
C'est l'açaï.
Oui, tout à fait.
L'açaï.
Ouais. Et ça en fait, c'est le fruit d'un palmier.
Moi, je suis pas fan. Moi.
Et il
moi
a été
plus.
Popularisé à Rio par les surfeurs parce qu'ils le consommaient comme un énergisant, qu'il a d'ailleurs, mais les populations d'Amazonie disent au contraire, que comme il est très énergétique et riche en lipides, elle doit faire la sieste après l'avoir mangé, alors que les surfeurs, eux, ils se lancent à l'eau. Quoi.
Ah bon ?
Ouais, c'est l'effet inverse. En fait.
Mais alors en vrai, c'est quoi ? C'est l'un ou l'autre ?
Ça dépend, je sais pas, de l'énergie qu'on a dans le corps. Je pense que c'est un énergisant et donc pour les populations amazoniennes, ça les fatigue et puis les surfeurs, au contraire, ça les booste.
Ah, c'est marrant. Ça.
Mais je pense qu'on l'utilise aussi un peu, j'ai l'impression, chez nous,
en
comme
glace,
quelque chose de.
En glace aussi.
Ouais, mais pour, comme quelque chose qui fait maigrir, alors qu'en fait, c'est très très riche en lipides, ouais. Ce fruit.
Moi, j'en mange tout le temps, ça me fait rien du tout. Je peux vous dire qu'alors là.
Bah, en tout cas, parce qu'ils ne sont peut-être pas bien dosés, ouais. Chez nous, mais en tout cas, bon, voilà, il y a tous ces palmiers à fruits. Il y a aussi
ça pousse tout en haut des,
ouais,
arbres.
Tout à fait.
Et il y a des petits gars qui grimpent à pieds nus le long du, ouais, tronc.
C'est dangereux,
c'est difficile. Ouais. Il faut être super sportif pour aller les chercher, les açaïs.
Et voilà, donc voilà. Tout... Et puis, alors, ça, c'est un exemple de fruits de palmiers, mais il y en a plein en Amazonie. Il y a les arbres à noix aussi qui sont riches en protéines. Donc là, voilà, il y a toute cette grande diversité. Et puis, alors, je l'ai déjà dit, l'emblème, c'est le manioc. Ça, je crois que si on essaye d'un point de vue culinaire, de prendre un point commun entre tout le Brésil, c'est peut-être ce produit-là, quoi. Le manioc qui est originaire de là et qui a essaimé dans le monde entier, en Asie, en Afrique. Il faut distinguer le manioc amer qui doit subir une transformation parce qu'il est toxique. Donc là, on l'a transformé en farine, en tapioca, en tucupi, le jus fermenté. Et puis le manioc doux qui peut se consommer comme un légume. Et j'ai échangé avec une anthropologue de l'Institut de Recherche et Développement, Esther Katz, qui est spécialiste de ces populations amérindiennes. Et elle me racontait l'immense richesse que représente cette région autour pour tous les produits et les savoir-faire aussi. Parce que, par exemple, dans certaines populations amérindiennes, on ne connaissait pas la poterie, donc on cuisait à l'étouffée. C'est des modes de cuisson intéressants. Et elle me disait qu'il y a 135 variétés de manioc, par exemple, en Amazonie. C'est la région la plus riche pour ces légumes. Donc voilà, c'est une richesse incroyable.
Hein. Je voulais quand même ajouter que l'avantage aussi du Brésil, c'est effectivement tout ce que vous avez dit, cette richesse des plats, mais aussi des tarifs super abordables dans les restaurants. Ça, c'est un vrai bonheur aussi. On mange tous ces plats que vous avez dit pour aller entre 5 et 10 euros.
Ouais, ça, c'est toujours le conseil du guide.
C'est ça.
Et
il y a des candidats à kilo. On des repas qu'on pèse.
Et pas du cher. Budget à tenir, mon cher.
Non,
Philippe.
Mais c'est vrai qu'à Salvador, il y a ce qu'on appelle les candidats à kilo, c'est-à-dire qu'on pèse à la fin son assiette,
oui, ça,
et puis on
ça,
pèse au kilo. Quoi.
Très bien. Mais alors, tous ces produits dont vous nous parlez, en fait, on ne pourra jamais y goûter.
Alors si justement,
si on va pas là-bas.
Effectivement, il faut aller là-bas ou alors j'ai quand même un bon plan à Paris. C'est un chef brésilien qui s'appelle Raphaël Rego, qui a un restaurant dans le 5e arrondissement Oka. Et en fait, je l'ai rencontré, c'est un monsieur formidable. Il a fait le tour du Brésil et de l'Amazonie. Il est brésilien, mais il a dit je connaissais pas assez mon pays. Donc il a pris une année pour aller à la rencontre de toutes ces personnes. Et il est revenu avec ses produits. Alors il fait par exemple des carottes rôties dans le rapadura noir. C'est un sucre de canne qui n'est pas raffiné, qui a un peu moins sucré que le sucre de betterave. Et une pointe d'acidité. Il cuisine le priprioca, qui est une racine amazonienne, ou encore le puxuri, une fève qui se marie très bien avec les produits de la mer. Et il a rapporté de Santarém, une ville en bordure du fleuve Amazon, un petit haricot qu'il a découvert parce que les femmes le cuisinent là-bas avec des crevettes. Et elles ajoutent la fleur de jambu dont j'ai parlé, qui a un genre de cresson. Et il a créé un cassoulet de la mer avec ces petits haricots. Donc, voilà.
Est-ce que c'est bon tout ça?
Ah ouais, franchement, lui, il a une étoile au guide Michelin.
Ah oui.
Et puis vraiment, ce qu'il a réussi à en faire. Il fait des gratins de manioc, c'est extraordinaire.
Jean-Bernard.
Ce que je trouve vraiment surprenant, c'est que cette cuisine merveilleuse, elle n'est pas plus connue que ça à l'extérieur du Brésil, finalement.
Ben oui, c'est ce que je dis tout le temps.
C'est très surprenant.
Parce qu'en fait, l'Amazonie, c'est encore une réserve à découvrir de plein de choses.
Hein. Bon.
Techniques et produits.
À suivre sur Europe 1, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour aller au Brésil avec moins de risques et plus de plaisir. À tout de suite.
Et
Si on partait sur Europe 1. Deux heures d'évasion avec Philippe Googler. Et si on partait ? Philippe Googler.
Est-ce sur Europe 1 aujourd'hui jusqu'à 18h, nous sommes au Brésil, un pays immense. Alors, Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, le Brésil, c'est immense. Quelle région vous conseilleriez-vous ?
Alors, je ne vais pas vous dire celle que je conseille, je vais vous dire celle que j'adore. C'est le Nordeste. Rien que prononcer, on y est. Nordeste. C'est la partie nord-est, effectivement, de cet immense pays. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Au départ de la ville de Recife, qui est une grande ville de cette région nord-est, j'ai longé toute la côte atlantique vers le nord pendant une semaine. J'ai fait un super road trip à bord d'un véhicule un petit peu spécial. On l'entend. Vous savez ce que c'est, ça ?
On dirait un char à voile.
Non, c'est pas un char à voile, ça s'appelle un buggy.
Les buggy. Un buggy, ça s'appelle un moteur, un buggy.
Alors c'est vrai que le bruit de moteur est pas très restitué ici, mais c'est vraiment parfaitement c'est vraiment parfaitement adapté au terrain sablonneux, c'est un espèce de véhicule léger.
Ah,
voilà, on l'entend, ça, il vient de démarrer. Voilà, c'est ça.
C'est un diesel votre truc.
Alors c'est un véhicule léger qui a deux places avec un habitacle ouvert mais qui est protégé par des arceaux métalliques avec un moteur de 1200 chevaux derrière, quatre pneus épais, c'est vraiment taillé pour l'aventure. Je précise que ça pollue peu, en tout cas beaucoup moins qu'un quad, et ça passe partout. On fait ça avec un chauffeur guide, on est soit à la place du passager, soit à la place du conducteur, et c'est lui qui fait le guide pour vous emmener le long de ces fameuses plages.
Et on va où ? On découvre quoi ?
Alors pendant une semaine, on suit les plages de l'Atlantique. Alors c'est pas une course, on roule à 50 km/h, c'est vraiment le plaisir du pilotage dans un décor sublime.
Mais on roule sur les plages ?
On roule sur les plages, voilà, sur ce qu'on appelle la grève, sur l'estran. Voilà, quand la marée basse, marée haute, il faut jouer avec les marées d'ailleurs. Alors je vous donne un petit peu quelques tranches de vie auxquelles j'ai pu assister ou que j'ai pu faire. À midi, par exemple, on s'arrête pour manger un plat de poisson. Voilà, tout simplement, dans une petite gargote sur la plage. Tout ça pour 2-3 euros. On admire les kitesurfers. C'est les spots les plus beaux du monde pour le kitesurf. C'est le long de cette côte parce qu'elle est tout le temps ventée. Vous avez des spots absolument phénoménaux. Pardon. On assiste au retour de pêche des jangadeiros. Est-ce que c'est que les jangadeiros ?
Non.
C'est les pêcheurs qui reviennent sur une jangada. Comme disait Jules Verne, la jangada, c'est des embarcations traditionnelles de pêche. Et vous assistez à ces retours des pêches. Nous, on s'est arrêtés, on les a même aidés à tirer ce gros bateau et à décharger leur prise. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, on s'amuse tout simplement aussi à monter et descendre les dunes de sable à bord de ce buggy. C'est vraiment des sensations phénoménales avec des vues de dingue sur l'Atlantique. Et puis, à un moment donné, on franchit même des rivières sur des bacs qui fonctionne encore manuellement, on tire sur des cordes, enfin la personne qui s'occupe de ce bac tire sur la corde, vous montez votre buggy sur la petite barge, tire sur la corde et il vous emmène de l'autre côté de la rivière. Ça, c'est pour moi, c'est le Nord-Est tel que je l'ai vécu à bord de ce road trip.
Ça a l'air d'être une super aventure.
Ouais.
Juste une petite question, vous avez dit qu'il y a beaucoup de kitesurf, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent, ça veut dire que c'est pas agréable de se baigner ?
Alors, on s'y baigne pas, voilà. Ouais, c'est d'où l'intérêt du road trip, on longe, on profite du paysage, de l'ambiance, des rencontres que l'on a, mais on se baigne pas.
D'accord.
Sauf si on est kitesurfer, évidemment.
Et votre étape préférée au milieu de tout ça ?
Ah bah, elle est assez connue sur place au Brésil. Tous les Brésiliens rêvent d'y aller. C'est Jericoacoara. On appelle ça Jeri, évidemment. C'est une ville balnéaire au bord d'une plage de rêve, plein de dunes à côté. Pas de rue pavée, c'est des rues sablonneuses. Et le soir, ambiance, je vous fais un petit peu l'ambiance quand même. Il y a des marchands ambulants sur la plage qui font des espèces de jonglage avec leurs shakers pour préparer les cocktails pour attirer le client. Alors c'est à celui qui fera les plus belles pirouettes avec son shaker. Et en deuxième partie de soirée, je suis allé jusque-là, pas au-delà, deuxième partie de soirée, le forró, la danse typique brésilienne. Oh, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est l'ambiance de Jeri. Et puis si vous avez encore des forces au petit matin, il y a des cours de capoeira sur la plage. Voilà. Magnifique.
J'aime bien. À votre rire, on sent que vous avez aimé.
Oh, j'ai adoré. Moi, j'aimerais bien y retourner à Jeri. Jeri, pour moi, c'est un coup de cœur absolu dans ce Nord-Est.
Ouais, ça a l'air magnifique. Et alors, hormis le littoral dans le Nord-Est, on peut aller voir des villes,
Il y a une ville que je recommande vraiment, elle se trouve près de Recife, et ça s'appelle Olinda. Il y a un carnaval qui est très connu, beaucoup moins connu que celui de Rio, mais il est plus intimiste. C'est une ville coloniale, et chaque année, le carnaval d'Olinda, il est très spontané, il est très intimiste. La foule se mélange aux blocos. Les blocos, c'est ceux qui dansent la samba, tous les danseurs. Ça dure 11 jours en février, des costumes super colorés, des défilés de travestis. travestis, il y a un côté impromptu, tout le monde se mêle. Alors moi j'ai vu les préparatifs de ce festival, rien que ça, il y avait une ambiance de dingue. Et il y a même des bonnets couches gigantesques, c'est des géants, vous savez, comme des festivals dans le Nord.
Ah oui,
ils promènent géants. des géants à bout de bras, et j'ai vu la préparation de ces géants dans le cadre de ce festival. Rien que ça, c'était...
Non, mais surtout c'était, 11 jours de fête, quoi.
C'est incroyable,
ces gens
incroyable.
Vous
dans
avez
un cadre
d'un...
Non, j'ai pas fait les 11 jours, mais ça fait partie de ma to-do list, vraiment assister pleinement à ce carnaval d'Olinda.
Et vous savez que ce qui fait l'énergie du carnaval beaucoup, c'est que pendant le carnaval, si vous trompez votre femme, elle ne peut pas vous le reprocher.
Non, c'est vrai, ça pourquoi dure, vous me regardez
dure. Les bons tuyaux de Philippe Gouffert, mesdames, messieurs.
Ouais, non, mais il y a un sous-entendu là ou quoi?
Mais je vous assure que c'est un élément important.
Ok,
bah,
je le note, hein, je le note, écoutez.
Alors, côté nature, on a vu le nord-est, ouais. Vous avez d'autres conseils?
Ah, bah, c'est le Pantanal. Là, ouais. C'est la partie sud du pays. C'est beaucoup moins connu que l'Amazonie. C'est aussi pour ça que j'aime cette région-là. Alors, ce n'est pas une forêt. C'est une immense plaine, le Pantanal, qui fait la moitié de la France, rien que ça. C'est le royaume des fazendas, ces immenses propriétés consacrées à l'élevage. Alors, à part ces fazendas, il n'y a rien, c'est quasiment pas peuplé. Il n'y a aucune ville, aucun village. Il y a vraiment la nature à l'état brut. Et la caractéristique de cette plaine, c'est qu'elle est régulièrement inondée. Donc, ça crée des écosystèmes très particuliers qui attirent des espèces animales elles-mêmes très spécifiques que l'on peut observer. Je vous rassure, Philippe, il ne s'agit pas des oiseaux. On y va pour quelque chose de bien plus impressionnant que les oiseaux. Ce sont les jaguars. C'est l'un des plus beaux spots d'observation au monde. Des jaguars, il faut bien sûr passer par une agence locale avec un guide professionnel. On ira pister le jaguar dans son habitat naturel, évidemment. Il faut avoir un petit peu de chance. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un léopard nain qui s'appelle les ocelots.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. Ah, c'est un petit peu frustré. Voilà.
Ah, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi, ouais.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. Nous a fait voyager.
Oh voilà, c'est un cri de jaguar. Voilà,
c'est un jaguar.
Ouais.
C'est marrant.
Ils viennent chasser les caïmans et les capybaras le long des berges des canaux.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir voyagé avec nous sur Europe 1. À demain.